One Year Later, les oreilles loin du front à l'heure anglaise. Depuis que je suis passée de l'autre côté de la Manche, j'écoute les oreilles en décalé. Retour sur votre émission du 3 mars dernier. Oui, je retente de citer des dates plutôt qu'un vague la semaine dernière. Bref, vous y parliez langage et écriture non sexiste avec les chercheuses Marie Loison-Leruste et Gwenaëlle Perrier qui ont coordonné la publication du dernier numéro des cahiers du genre « Genre, langue et politique, le langage non sexiste en débat » publié aux éditions de l'Harmattan. On réentend déjà les soupirs de notre entourage lors de notre dernière discussion sur ce sujet, parce que franchement, c'est n'importe quoi, c'est ridicule même, en plus c'est moche, non? Franchement, il y a d'autres sujets plus importants, non? Eh bien non, justement, ce que montre très bien cette émission, c'est que c'est très loin d'être un sujet mineur, une fantaisie de linguiste comme vos invités l'ont déjà entendu. C'est même central dans la lutte pour une vraie égalité. Tout au long des chapitres de leur ouvrage que Juliette nous aide à feuilleter avec elle, on découvre toutes les facettes de ce débat, en France, mais aussi à travers le monde, signe, si on en avait besoin, que quelque chose de fondamental se joue dans la façon dont on utilise le langage et les langues. Les deux chercheuses commencent par nous faire entendre comment on peut facilement parler ou écrire de façon non sexiste dans la langue française, grâce par exemple aux mots épicènes, aux accords de proximité ou aux accords de sens, etc. Elle nous donne ensuite à entendre les solutions que d'autres langues ont réussi à créer et à faire circuler déjà très largement. Que ce soit de nouveaux pronoms comme le N en suédois ou de nouvelles terminaisons, c'est le cas du Z au Québec. Il s'agit donc bien de faire bouger les lignes, enfin les langues, mais ce n'est en fait pas toujours tant pour y visibiliser les femmes que pour les démasculiniser. Parce qu'en France notamment, l'histoire montre que quand c'est au service des hommes, il est possible de changer les règles et ainsi imposer le masculin neutre comme si, bref. Mais c'est beaucoup plus compliqué quand il s'agit de la faire progresser vers le non-sexisme. Et quelle violence de la part des mouvements qui s'y opposent quand on ose imaginer bousculer ces normes préétablies. En France, par exemple, l'Académie en fait un risque majeur pour l'unité de la nation en s'appuyant sur cette idéologie républicaine que la langue fait nation, un peuple, une république, une langue. Ouais, enfin, résultat, on récupère surtout un français standard, standardisé, par les élites, tiens, et totalement figé. Il ne faudrait surtout pas le toucher pour ne pas l'abîmer ou perturber son apprentissage. C'est vraiment un danger mortel, et l'opposition est quasi viscérale, comme vos invités le disent. C'est étonnant d'ailleurs que ce soit présenté comme si grave quand le premier argument mis en avant est souvent le fait que c'est qu'un détail ou une fantaisie. C'est même franchement contradictoire, non? Ce qui est grave, en fait, c'est le sujet de l'égalité qu'il y a derrière, la force symbolique, le mouvement d'inclusion que cela représente, et c'est bien ça qui pose problème. Pourtant, respecter d'abord celui ou celle qui parle une langue, c'est mieux que respecter des codes, des normes standardisées et masculinistes, non? L'émission est à réécouter sur www.loldf.org d'urgence pour en finir avec les arguments de votre entourage sur ce sujet. L'occasion de découvrir que celui de vos invités, des universitaires, ont démontré la même violence sur ce sujet, ce sont même des réactions à une de leurs tribunes contre la règle du masculin qui l'emporte, qui est à l'origine de cet ouvrage. Bonne émission ce soir, à la semaine prochaine et d'ici là, en attendant toujours la fin imminente cette fois du step 1 du plan de Bojo, I'm a Lears, enfin je suis toute oreille quoi.